Bonjour à tous, on reprend aujourd'hui ma Maseret Shabbat, Daf Nun Tet, 4 lignes. Après le début de la page, on était en pleine Souga. On avait vu qu'une clochette dont la partie intérieure avait été cassée et séparée de la clochette elle-même restait encore perméable à l'impureté. La Gemara avait posé une question, pourtant elle a été détruite. Et nous dit la Gemara que c'est vrai qu'elle n'a pas son utilisation initiale, mais puisqu'elle est encore utilisable, Rabbi Yochanan nous avait donné comme explication qu'on pouvait l'utiliser comme récipient pour donner à boire à un enfant, donc elle avait encore un statut d'ustensile, c'est pour ça qu'elle restait perméable à l'impureté. Ce que la Gemara va faire tout de suite, c'est qu'elle va ramener une preuve où Rabbi Yochanan nous dit clairement que pour que dans ce cas-là, n'importe quel ustensile reste avec l'impureté qu'il avait initialement, il faut qu'il reste avec son utilisation initiale. Il n'est pas simplement suffisant d'avoir une utilisation quelconque, il faut avoir son utilisation initiale, c'est ce que la Gemara va poser comme question tout de suite. Rabbi Yochanan, l'obay melacha rishona, est-ce que d'après Rabbi Yochanan, on n'a pas besoin pour le qualifier d'ustensile encore impur, de rester avec la melacha rishona, avec la définition initiale, vatania. Vechol kili asher yeshev alav, alors cette baraita nous parle de deux choses, elle nous parle premièrement d'une définition avant même d'être impur, pour être perméable à l'impureté, et on voit que dans tout ce qui est Toumat Zav, Zav, celui, un homme qui a un écoulement spécial de Zav, donc quelque chose qui ressemble à du sperme, mais ce n'est pas du sperme, c'est autre chose, c'est Zav. Il a une impureté spéciale, toutes les choses sur lesquelles il va s'asseoir vont être impures. Mais attention, il faut que ces choses-là soient dédiées à être assis, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des choses qui sont utilisées comme siège ou autre. Donc c'est le passou qu'on va ramener tout de suite, « V'chol k'li asher yeshev alav » Yachol kafa sea veyachav alea kafa tirka veyachav alea. Donc, tout ustensile sur lequel il va s'asseoir sera impur en tant que moshav, en tant que mirkav, toute chose que le zav s'est assis dessus. La Gemara nous dit Yachol kafa sea veyachav alea kafa tirka veyachav alea. Sea veytirkav, c'est des ustensiles qui étaient des moyens de mesurer la récolte. Et donc, on pouvait aussi les utiliser pour s'asseoir dessus. Donc, est-ce qu'on peut le définir aussi comme quelque chose qui serait perméable à cette impureté? Tamudomar Asher Yeshev Alav au futur, Mishemi Yuchad les Yeshiva. Il faut qu'il soit dédié à ça, c'est-à-dire, il faut qu'il soit utilisé en tant que siège. Yad Sazé, donc on a exclu celui-là, Shemrimlo, Amod Venasem L'Artelon. Celui-là, si quelqu'un est assis dessus, on va dire Amod, lève-toi, Venasem L'Artelon, c'est-à-dire que ça n'est pas utilisé comme siège, comme chaise. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Lézer vient parler au sujet de quelque chose qui était déjà impur. Est-ce que quelque chose qui était déjà impur et qui a perdu son statut initial, est-ce que lui aussi, s'il n'est pas dans le cadre initial de son utilisation, est-ce que lui aussi il perd son impureté? Donc Rabbi Lézer nous dit Midrasot omrim, amad venasem l'artelon. Mais midrasot, pour tout ce qui est midras, pour tout ce qui est tum'a, où la personne s'assoit dessus, là on dit cette définition, amad venasem l'artelon, c'est-à-dire est-ce qu'il est dédié à ça ou pas. Ven omrim betmemet, amad venasem l'artelon. Mais au sujet d'une tum'a autre que midras, en l'occurrence tum'emet, c'est-à-dire l'impureté faite par un mort, on ne fait pas cas de cette définition. Et donc même si ça n'a pas la définition initiale, ça garde son impureté. Rabbi Yochanan Omer, Af, Rabbi Yochanan Omer, Af, Omer, Bet, Memet, Amod, Velasem, L'Artenum, même au sujet d'une impureté autre que Midras, si ça n'a pas la Tum, Aïn, l'impureté, la définition initiale, on ne dit pas, on ne dit pas, donc, il ne sera pas impur. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? Que pour garder l'impureté initiale, il faut garder la définition initiale. D'après Rabbi Yochanan, dans n'importe quel tum'a. Donc, comment se fait-il que cette fameuse cloche dans le braïta, elle a gardé son impureté, et sachant qu'elle a changé de définition? Au début, c'était une clochette, et maintenant, c'est utilisé pour faire donner à boire à un enfant. La Gemara nous dit, pour kamaïta, tu as raison. On est obligé de changer les auteurs dans le premier enseignement qui est aussi amené au nom de Rabbi Yochanan, à savoir ce qu'on avait dit, que Rabbi Yochanan nous disait, puisqu'il peut être utilisé pour boire de l'eau, il ne faut pas le dire au nom de Rabbi Yochanan, on va le dire au nom d'un autre Emora, et on va plutôt changer avec Rabbi Yossi Bar Hanina, que lui il a dit, on peut utiliser la clochette pour taper sur de l'argile, donc elle peut continuer, elle peut encore être utilisée pour faire du bruit, donc elle a, oui, cette définition initiale, c'est pour ça que son impureté reste. Pourquoi tu as décidé de changer le premier enseignement de Rabbi Yochanan, change le second, à savoir Rabbi Yochanan et Rabbi Lazam? Et on nous dit, On a un troisième enseignement où là c'est clair que Rabbi Yochanan pense qu'il faut avoir la définition initiale. Il est marqué au sujet d'une chaussure. Sandal shel behema shel materet tamé. Sandal shel behema, donc quelque chose qui est utilisé par l'animal en général, par définition, ne peut pas être perméable à l'impureté. Mais, et c'est pour ça que l'Agmara nous dit, lema yichazé, cette chaussure-là était pour protéger l'animal de tout ce qui pouvait le blesser sur la route. Lema yichazé, pourquoi, en quoi il peut être utilisé par l'homme? Amarav ra'ul ishtal bomaim bimilchama. C'est vrai qu'en général on l'utilise pas, mais quand on n'a pas le choix, quand on est en guerre, bimilchama, ra'ul ishtal bomaim, on peut l'utiliser pour boire. Après une nommée, ra'ul asur boshemen bimilchama. On peut mettre de l'huile dans cette chaussure pour pouvoir l'étaler sur son corps. Rabbi Yochanan Amar Becha Sheboreach Min Hakrav Menicho Beraglav Veratz Al Kotzin Valbor Kelin. Quand il se sauve du krav, du champ de bataille, il va utiliser cette chaussure pour protéger ses pieds. Donc on voit que Rabbi Yochanan a besoin de garder une utilisation initiale, c'est-à-dire d'être utilisé en tant que soulier. L'Agma pose une question qui n'a pas de lien direct avec notre Suga, mais puisqu'on a déjà rappelé trois réponses pour expliquer pourquoi est-ce que cette chaussure de métal est, oui, perméable à l'impureté, l'Agma nous dit « Maï ben rav le rab chalina et kabena yudemais ». Quelle différence entre la première et la deuxième réponse, à savoir pour boire de l'eau ou pour étaler de l'huile? L'Agma nous dit quand il est maïs, quand il est dégoûtant, donc boire de l'eau, ben, ça ne sera pas possible de boire, donc il aura perdu son statut. Par contre, utiliser pour mettre de l'huile sur son corps, ça sera encore utilisable, donc c'est pour ça qu'il n'aura pas perdu son statut, il gardera son impureté. Ben rabbi chalina et rabbi chalina et kabena yudeyakir. Entre le deuxième et la troisième réponse, à savoir l'huile, et courir, il m'a dit de yakir quand il est très lourd. Quand il est très lourd, tu ne peux pas courir avec. Donc, d'après Rabbi Hanina, il a perdu son statut. Mais d'après Rabbi Hanina, tu peux encore l'utiliser pour mettre de l'huile sur toi. Donc, il n'a pas perdu son statut. Donc, on a terminé l'explication de la Brita qu'on avait vue hier. À savoir, pourquoi est-ce que ça garde une impureté? Parce qu'il y a une utilisation. Et d'après Rabbi Hanina, il faut savoir qu'il ne suffit pas. On ne se suffit pas d'une utilisation stam. Il faut avoir l'utilisation initiale. L'Agma continue avec ce qu'on avait vu dans la Mishnah, Velo be Hirshel Zav. On a interdit à une femme de sortir avec un bijou qui s'appelle Hirshel Zav. On vous rappelle, pourquoi est-ce qu'on interdirait à une femme de sortir avec des bijoux? Parce qu'elle aurait tendance à le montrer à ses amis et donc le transporter pendant Shabbat. L'Agma dit, Mai be Hirshel Zav. Qu'est-ce que c'est ce bijou qui s'appelle Hirshel Zav? Amar Abba Barbachana, Amar Abbachana, Yerushalayim de Dava. Donc c'est Yerushalayim Shel Zahav, c'est un bijou sur lequel on voit une ville en or, qui est d'Aval de Rabbi Akiva et Levitou, comme Rabbi Akiva fait à sa femme, la fameuse histoire de Rabbi Akiva et Rachel, sa femme qui était très pauvre. Ils étaient très pauvres ensemble, mais Rachel venait d'une famille très riche, et le père de Rachel ne voulait pas de Rabbi Akiva comme gendre. Rabbi Akiva remontait le moral à sa femme en lui disant, quand il sera riche, il lui fera des beaux bijoux, c'est ce qu'il a fait en fin de compte. L'Agma nous dit, alors, ben, l'autre était Ishab et Hirshel Zahav. Donc, on n'a pas le droit de sortir avec ce bijou qui s'appelle Hirshel Zahav, une ville en or, Ve'im Yatzta. Donc, si elle est sortie, Chayvet Ratat, elle a transgressé un interdit Minatora. Donc, ça, c'est premier avis de Rabbi Meir. Chachayim Omrim, l'autre était un interdit de sortir, Ve'im Yatzta Ptora. L'interdit est seulement Midarabalan, comme on l'a expliqué dans le Mishnah, on interdit certaines choses, de peur qu'elle transgresse l'interdit de porter pendant Shabbat. Rabbi, les Eromer, Yotza, Ishab et Hirshel Zahav, les Chatrila, non seulement c'est pas interdit, il n'y a pas d'interdit Minatora ni d'interdit Minarabanan, c'est moutard de sortir avec. Bemaï comme flégué. Donc on a trois avis à ce sujet-là. Rabbi Meir, qu'est-ce que ça va ma soyou? Rabbi Meir pense que ce n'est pas défini comme un bijou, c'est défini comme un statut social, c'est pour se montrer. Et donc c'est que quelque chose qui est défini comme un masseuil, comme un poids. Et donc ça n'est pas un bijou, donc c'est pour ça que c'est interdit Minatora. Rabbanan, ça veut dire tout. En vérité, c'est un bijou, mais le problème, c'est quoi? Dilma Shalfa ou Marvel, elle va te l'atouiller. Peut-être qu'elle va l'enlever pour le montrer, et puisqu'elle va l'enlever pour le montrer, elle va le transporter. Ah, mais ça va, hein. Mandar Kalamefak Beyoshazav, qui est-ce qui a l'habitude de sortir avec ce genre de bijou? Isha Khashua, une femme importante. Isha Khashua, l'homme Shalfa ou Marvel. Une femme importante ne va pas montrer, n'a pas besoin de se rabaisser à montrer et à étaler sa richesse, donc elle ne risque pas de l'enlever pour le montrer à ses amis. Kilila. L'Agma nous parle maintenant d'une autre sorte de bijou. Donc on a c'est un bijou qui est posé sur le front, d'oreille à oreille. On a une machloket rav, assar ou shmuel sharei, machloket entre rav ou shmuel, rav interdit, shmuel nous permet. Mais on a une machloket, comment expliquer la machloket de rav ou shmuel? On va avoir deux possibilités. Dans une des possibilités, 3 cas sur 4 seront interdits. Dans une autre des possibilités, 3 cas sur 4 seront permis. Je vais tout expliquer. Dehaniska. Si ce bijou est fait à Niska, c'est donc c'est un bijou qui est fait à base de métal, or ou argent. Kul alma lo pligé d'assur. Tout le monde pense que c'est interdit. Pourquoi? Puisque c'est un bijou où la femme pourrait être intéressée à montrer, elle risque de le transporter pendant le Shabbat. Qui pligé à Be'arukta? Quand il soit en marloquette au sujet d'un bijou qui est fait Be'arukta, donc c'est fait en tissu. Et sur ce tissu, il y a de l'or ou il y a des pierres précieuses. Mars, ça va à Niska Ekar. Donc il y en a, Rav pense que le Aniska Ekar, c'est-à-dire les métaux, sont les plus importants à ses yeux. Et donc, elle va, oui, montrer, même s'il est fait à base de tissu, elle va quand même le montrer à ses amis. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. Donc, d'après Rav, dans tous les cas, c'est interdit. On va savoir. Arukta Ekar, Shmuel pense que Arukta Ekar, que le tissu est plus important que les pierres qui sont incrustées dessus. Donc, elle ne va pas, c'est pas quelque chose qu'elle va aller montrer. Et donc, c'est pour ça que c'est permis de porter. Donc, dans ce cas-là, on a, tout le monde est d'accord sur le Niska que c'est interdit. Et sur le Arukta, on a une marloquette. Donc, sur un cas, tout le monde est d'accord que c'est sourd. Sur le deuxième cas, marloquette. Ravashi matene la kula. Ravashi lui fait le contraire. De Arukta de kula, le pligé de charé. Dans le Arukta, tout le monde pense que c'est moutard. Pourquoi? Puisque c'est pas quelque chose qui est important. Il n'y a aucun risque à lui montrer. Qui pligé de Aniska. Mar ça va. D'une machal fois marvé, va t'elle la touille. Mar ça va. Mandar kele mefak. Puisqu'il est fait, puisqu'il est important. Alors, quand il n'est pas important, c'est sûr qu'elle ne va pas le montrer. Quand il est important, Rav pense qu'elle risque de le montrer. Shmuel pense, comme ce qu'on a vu auparavant dans Rabbi Lazar, à savoir, une femme ne va pas étaler sa richesse, donc elle ne va pas le porter. Donc là, on a deux cas sur trois, d'après Shmuel, qui sont permis. Et d'après Shmuel, dans tous les cas, c'est interdit. Vous savez que Rav Yosef a une maladie, a oublié une partie de ce qu'il avait enseigné. Donc, c'est pour ça que Rosh Moel lui rappelle. Rav Yosef, Befirush Amartlan, je nous ai dit, Mishme des Rav, au nom de Rav, que qu'il l'a charré. Donc, je comprends qu'il y a au moins un cas d'après Rav où c'est permis, dans le cas de, comme Rav Ashi l'a expliqué, c'est-à-dire, des Arukta, des Kulalma, l'obligé de charré, quand il n'est pas shoot, c'est sûr que c'est permis, puisqu'il n'y a aucun risque que le montre. Amoulé les Rav. On a raconté à Ravata Gavra Abarika Lenardé. Il y a un homme important qui est venu, et cet homme était grand. Matla, c'est Riger, il était boiteux. Vedarash, et il a enseigné Klila Charé. Rav a fait une déduction. Amarman Gavra Abarika Lenardé, qui est-ce qui est une grande personne et qui est-ce qui est un grand homme et un homme grand? Lévi. La Gemara nous dit, et donc ça veut dire que quoi? Shmam, donc lui, il est arrivé d'Eret Israël en Bavel. Shmam Iné, c'est-à-dire que Nach Nafshe de Rabbi Afes, que Rabbi Afes est décédé. Ve'ativ Rabbi Chanina Berecha. Ve'lo avale le inish le livi limitav gabe. Ve'ka'ate le hacha. Donc, quand Rabbi Yehuda Nassim est décédé, il a donné à chacun un tafkid et il a proposé à Rabbi Chanina d'être le Rosh Yeshiva. Rabbi Chanina ne voulait pas parce que Rabbi Afes était plus âgé de lui de 2 ans et demi. Donc il a laissé Rabbi Afes en premier. Et Rabbi Chanina était plus grand en Torah que lui, donc il n'avait rien à faire dans le cours de Rabbi Afes, donc il était en dehors du shiur. Lévi ne laissait pas Rabbi Chanina tout seul, et il a étudié avec lui en Chavuta. Maintenant, puisque Lévi est venu maintenant en Bavel, Rav a dit comme ça, « Shmam, il a narknafché Rabbi Afes. » Je comprends que Rabbi Afes, qui a pris la place de Rosh Yeshiva, était décédé. « Yativ Rabbi Chayina Berecha, Rabbi Chayina est maintenant devenu Rosh Yeshiva. »« Velo aveleinish le Lévi limitav gabé. » Et donc, Lévi n'avait plus de Chavuta avec Atelecha, c'est pour ça qu'il est venu. L'Agman nous dit, « Vedima narknafché de Rabbi Chayina. » Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire comme ça? Peut-être que c'est Rabbi Chayina qui est décédé. Et donc c'est pour ça que Rabbi Afes qui est décalé. Velo aveleinish le Lévi limitav gabé. Et c'est pour ça que Lévi n'avait plus avec qui être. Agman nous dit, imita de Rabbi Chanina Shachiv, si Bémet Rabbi Chanina, la fameuse Chavuta de Lévi, était laissée, Lévi, le Rabbi Afes, Mikafa et Kaifle. Lévi serait rentré, Lévi c'était rien que par respect pour Rabbi Chanina, qu'il était resté avec lui dehors, Vetoui. Deuxième raison pour laquelle il disait ça, de Rabbi Chanina, le Saga de l'Omanir, pour Rav, c'était pas shoot que Rabbi Chanina allait devenir Rosh Yeshiva, pourquoi? Nechi avec Anaïchen, Afshé de Rabbi, quand Rabbi est décédé, quand il a proposé à Mar Chanina Berabbi Chama Yativ Rosh, il a dit que Rabbi Chanina allait être Rosh Yeshiva. Ukti Veut Tzadikim, il est marqué au sujet des Tzadikim, mais Tixor, merveilleux comme l'art. Tout ce que le Tzadik a décidé, ça va se faire. Donc forcément, Rabbi Chanina va devenir un Rosh Yeshiva. Qu'est-ce que Lévi a enseigné quand il est arrivé à Nerdea? Darash Lévi Ben Nerdea, Klila Charé, ce fameux bijou-là est interdit. Nafi Kesrin Verba Belila, Kedila Mikula Nerdea. Le même Shabbat, 24 femmes sont sorties avec ce fameux bijou. Darash Rabba Baravu Abimechouza. Abimechouza, un autre endroit en Bavel, Klila Charé, donc lui aussi a dit que le Klila était permis. Venafku Tamlesri Klila Bechada Mevoa. 18 bijoux, 18 femmes sont sorties avec ce bijou-là de Mevoa. Donc c'est d'une impasse. Donc ça veut dire que Abimechouza, ils étaient bien plus riches que dans toute la ville de Nerda. Toute la ville de Nerda, il y avait 24. Et là, d'une seule rue, pardon, d'une seule rue, il y a 18 femmes qui sont sorties avec ce fameux bijou. Donc, on voit qu'il y a des avis qui permettent qu'il est là, ou comme l'explication de Ravashi dans celui qui est Pachout, ou même dans celui qui est très cher d'après Shmuel. Amar Veda Amar Shmuel, Kamra Sharé. On parle à un autre sujet, un autre bijou. Amar Veda Amar Shmuel, Kamra Sharé. Kamra, c'est quoi? C'est une ceinture, une très belle ceinture. On a le droit de sortir avec Shabbat. Ikade Amré, il y en a qui pensent qu'elle était faite d'Arukta. On parle qu'elle est faite avec un tissu, et sur ce tissu, il y avait des pierres précieuses. Veda Rav Safra. Et Rav Safra nous a expliqué, c'est de la même manière qu'on a le droit de mettre un habit qui est fait en or, on a le droit de mettre une ceinture qui est aussi incrustée de pierres précieuses. Mais quand on parle d'Aniska, on parle non pas d'un tissu incrusté, mais de quelque chose qui est lui-même à base d'un métal cher, que ce soit de l'or ou de l'argent. Rav Safra, pourquoi est-ce que c'est permis? C'est considéré comme une ceinture de roi, et puisqu'on est tous des Bnei Melachim, c'est pour ça qu'on a le droit de le porter pendant Shabbat. Amar le Ravina le Ravashi, Kamra il avait mis à la maille. Si je veux mettre cette ceinture sur une ceinture, est-ce que j'ai le droit de le faire? Amar Abzera, j'ai sauté une partie, pardon. La Gemara nous dit, Amar le Trehemiane Kamart, comment est-ce que tu peux supposer qu'on puisse porter deux ceintures Trehemiane Kamart? Et bien, il faut faire attention, ceux qui portent des ceintures de Shabbat en France, il faut faire attention à ne pas porter une ceinture qui ne sert à rien. Il y en a qui utilisent, et c'est comme ça qu'il faut faire, la ceinture de Shabbat comme ceinture de leur pantalon. Amar Ravashi, Hay Rasuka. Donc, Rasuka, c'est un tissu qui peut être enroulé autour du cou. Alors, Gemara nous dit, it le mafricha yata. Si il a des fils avec lesquels, au bout de ce tissu, il y a des fils avec lesquels on peut l'attacher charé. Velo assi, sinon, c'est interdit. Pourquoi? De peur qu'il tombe et qu'on le ramasse et qu'on le porte pendant Shabbat, 4 amor de Shut Arabim. On revient à notre Mishnah, 4 là, donc on a vu deux sortes de bijoux déjà, mais on va voir un troisième, celui de notre Mishnah, Maï 4 là, qu'est-ce que c'est Maï 4 là? Man Kata Paré, ce qu'on avait vu c'était comme un bavoir qui était attaché autour du cou, et sur lequel c'était quelque chose pour protéger de saleté, et donc on n'a pas le droit de le porter. Quand il est, bien sûr, je parle pas d'un bavoir sale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui était mechoubad, et puisque c'est un tarchit, c'est un bijou, elle risque de le montrer à ses amis. On a vu aussi dans la Mishnah qu'on avait pas le droit de sortir avec les amis, avec des boucles. En général, c'est des boucles d'oreilles, quand ça s'appelait les amis. La Gemara nous dit, nizme ha'af. On parle pas des boucles d'oreilles, parce que les boucles d'oreilles, c'est compliqué pour les enlever. Quand nous dit Rashi, parce qu'il y a ses cheveux qui sont là, on parle de boucles qui étaient sur le nez, c'est plus facile pour elle pour les enlever, et là, donc, il y a un risque. Velo betabat, chenel achotam. La Mishnah nous a dit qu'elle avait pas le droit de sortir avec un anneau, ou sur lequel il n'y a pas de seau. Ha, yeshale achotam. Ça voudrait dire que si jamais il y a un seau, chayevet. Ça voudrait dire que l'interdit midera banane, c'est seulement parce qu'il n'y a pas de seau. Mais s'il y avait un seau, donc c'est que c'est vraiment pas adapté à la femme. C'est vraiment pas quelque chose qui est adapté à la femme, comme nous dira Rashi, c'est quelque chose qui a été utilisé par les hommes. Dans ce cas-là, elle serait chayevet ratat. Pourquoi? Parce que là, on n'est plus en mode tarchit, en mode bijou qui est à source seulement midera banane. On est en mode massoy, un poids, quelque chose qui n'est pas utilisé par la femme. Et donc, elle devrait être chayev minatora. Elle aurait transgressé minatora. La Gemara nous dit alma, lav tarchit. Donc, ça voudrait dire que ça n'est pas défini comme un tarchit. Ou minou. On ramène une Mishnah qui nous parle d'impureté. Tarchit nashim tmeim. Donc tout ce qui est défini comme un bijou est perméable à l'impureté. Le katlaot, donc le katlaot c'est ce qu'on vient de voir il y a deux minutes, ce qu'on met autour du cou et qui est censé protéger la partie supérieure du corps. Nezamim, là on parle des boucles d'oreilles. Tabaot, des bagues. Et tabaotzo, quand on parle de bagues. Ben shesh alachotem, ben shesh alachotem. Donc qu'elle soit avec un seau, qu'elle soit sans seau. Nizme ha'af, les boucles qui sont utilisées sur le nez. Donc on voit clairement qu'elles sont perméables à l'impureté, qu'il y a un seau, qu'il n'y ait pas de seau. Donc on voit qu'elles sont définies comme ustensiles. Donc pourquoi est-ce que toi tu me dis que s'il n'y a pas de seau, c'est défini comme un massoy, un poids? Ça devrait être défini comme un tarchit, comme un bijou. Et ça devrait être interdit, mais de la banane et non pas minatora. Première réponse, on en a trois. Amar Abizera, Lokashi, Rabbi Nechemia, Rabbanan. La Gemara va tout de suite expliquer. On est à marloquette entre Rabbi Nechemia et Rabbanan. Quelle est la partie la plus importante dans n'importe quel ustensile, entre autres les bagues? On va le voir tout de suite. Detania. Il y a marqué Hishel Matechel, Vuchotama, Shalmog. C'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant, c'est le Marita. Si jamais la bague était faite en elle-même en métal et le seau était fait à base de d'algues. Tmea, pourquoi? Parce que la bague est plus importante. Mais Ishel Almog, si elle est faite de d'algues, donc c'est du bois, Vechotama Shel Matechet, et le seau est en métal, Tehora. faut pas oublier une règle initiale, tout ce qui est fait à base de bois, tout ce qui s'appelle pshuté kliyet, donc quelque chose qui est fait à base de bois et qui n'a pas de récipient, est imperméable à l'impureté. Par contre, si c'est pshuté kliyet, quelque chose qui est fait à base de métal, même s'il n'a pas de récipient, à partir du moment où il a une utilité, il est perméable à l'impureté. Donc là, on a un seau, on a deux parties dans le seau, une partie en bois et une partie en métal. Et on n'a évidemment pas de récipient, puisque c'est une bague. Donc là, on ne sait pas comment définir quelle est la partie la plus importante. D'après Tanakama, donc d'après Chachamim, on te dit que si tout dépend de la bague elle-même, c'est elle qui est la plus importante. Et la Gemara va tout de suite expliquer donc, d'après ça, d'après Chachamim, dans n'importe quelle forme de bague, si elle a un seau, si elle n'a pas de seau, puisque la bague elle-même, c'est la partie la plus importante, plus que le seau, donc la bague elle-même est définie comme un tarchit, donc dans tous les cas, c'est interdit seulement midera banal, mais d'après Rabbi Nechemia, tout dépend du seau, comme on va le dire tout de suite. Rabbi Nechemia metame. Rabbi Nechemia nous dit que si jamais le seau est en fer, alors, elle est métamée. Pourquoi? On va voir que c'est une marloquette de fond. Comment est-ce qu'on définit un ustensile? Est-ce que par la partie qui est utilisée, ou par ce qu'on va appeler le mamid, c'est-à-dire la chose qui fait que cet ustensile existe? On va lire dans les mots. Shaira bin Chemir, betabat, alachachotama. Dans une bague, tu dois regarder par rapport à son seau. Be'ol. Ol, c'est un joug qu'on mettait sur l'animal. Alachachachimlonav. On va regarder par rapport au clou ou au vis qui est attaché, qui était attaché autour de l'animal. En fait, Rashi nous explique qu'il y avait des bois qui étaient parallèles au-dessus du cou et des bois qui étaient sur les côtés du cou, et on les attachait entre eux pour pouvoir gérer le sens dans lequel l'animal devait aller. Mais Kolav, c'est un morceau de bois qui a été utilisé par les commerçants pour déposer leurs marchandises. Donc on a un grand morceau de bois avec un socle, et puis sur ce morceau de bois, il y a plein de petits clous comme ça sur lesquels ils pourraient mettre la marchandise. Alach achar masmerotav. Donc à chaque fois, vous verrez que d'après Rabbi Nechemia, on regarde la partie utilisée elle-même directement et pas tout ce qui a fait qu'on peut l'utiliser. Besula machar shlevotam, une échelle. On va pas regarder la partie extérieure de l'échelle, on va regarder chaque partie sur laquelle on monte, donc ça dépendra de cette partie-là. Mais Arsi, c'est une balance. On va aller d'après les chaînes pour voir la balance. Évidemment, c'est une balance dans qui est utilisée avec deux côtés, donc il y a des chaînes de chaque côté, c'est ça qui va définir l'ustensile. Hachamim nous disent que non, on va pas regarder la finalité de la chose, on va regarder le fond de l'ustensile, le ma'amid de l'ustensile, celui qui fait que l'ustensile existe, et par rapport à ça on définit. En tous les cas, d'après Rabbi, on a une marque entre Hachamim et Rabbi Nechemia au sujet de la bague. Si elle-même elle est faite en bois et son seau est fait en métal, est-ce qu'elle est mekabel touma ou pas? D'après Chachamim, dans ce cas-là, elle n'est pas mekabel touma. D'après Rabbi Nechemia, elle est mekabel touma. Donc on voit, si elle est faite en bois et son seau, oui, et son seau est en métal, d'après Rabbi Nechemia, elle est mekabel touma et pas d'après Chachamim. Donc d'après Rabbi Nechemia, le plus important, c'est le seau. Donc pour une femme, le seau n'est pas considéré comme quelque chose qui est utilisé par la femme. Donc c'est pour ça que dans notre Mishnah, on dit que c'est un masoï. Mais ce qui a marqué dans la Mishnah au sujet de l'impureté, on voit que n'importe quelle sorte de bague va être impure, c'est d'après Chachamim, puisque eux ne s'intéressent pas au seau, ils s'intéressent à l'anneau lui-même. La Gemara donne une deuxième réponse. Rav Amar le Tzadim Katale. Quand il y a marqué au sujet de l'impureté qu'une bague, qu'elle est un seau, qu'elle n'est pas de seau, elle est considérée comme impure. Yesh aleachotem tarchideish. Si jamais elle est avec un seau, elle est définie comme un bijou utilisé par l'homme. En aleachotem tarchideisha. Si elle n'a pas de seau, elle est considérée comme un bijou de femme. Rabbi Nachman bar Yitzhak Omer. Parlons Touma Shabbat Karamit. Comment est-ce que tu opposes deux notions qui n'ont aucun rapport? L'impureté, la perméabilité à l'impureté et Shabbat. Tum a klima aser a marachman. Ou kliou. Pour l'impureté, ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que l'ustensile, c'est pas qui est l'utilisateur de cette chose-là, c'est est-ce qu'en soi c'est un ustensile. Et à partir du moment où il a une utilisation quelconque pour qui que ce soit pour un homme ou pour une femme, il est défini comme un kli. Alors que Shabbat, mishumaser a marachmana, on ne sait pas est-ce que c'est utilisé comme un habit ou pas comme un habit. Donc ça dépend s'il y a un seau, s'il n'y a pas de seau. S'il y a un seau, alors c'est défini comme un masoï. S'il n'y a pas de seau, c'est défini comme un habit, comme un tarchit, et c'est pour ça qu'on aurait le droit de le porter. Donc on a trois réponses pour expliquer Pour expliquer la contradiction entre notre Mishnah, on voit qu'une femme qui porte un anneau sans sceau, elle devrait être à Yafrata. Trois explications possibles. On va résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. La première partie, c'est que casser un ustensile pour le rendre, pour le purifier à travers le fait qu'il a été cassé, d'après Rabbi Yochanan, on n'a pas besoin vraiment de le détruire. Il suffirait de lui enlever son utilisation initiale. La deuxième chose qu'on a vue, c'était au sujet de Hir Shel Zahav, donc un bijou qui était très cher apparemment. Et on a vu une triple marloquette. Est-ce que c'est un interdit Minatora de le sortir? Est-ce que c'est un interdit Minderabanan? Ou est-ce que ça serait permis de sortir avec? Au sujet de Kilila, un bijou qui est porté sur le front, une marloquette Rabbi Shmuel, et deux explications, comment expliquer Rabbi Shmuel. Et on a ramené des preuves que Rav permettait un des cas de Kilila, apparemment le Kilila le plus basique, c'est-à-dire il n'y a aucune raison de penser qu'elle risque de le sortir, de le montrer à sa femme. On a vu aussi la fameuse histoire de la ceinture, deux ceintures l'une sur l'autre, ça devrait être interdit. Et la bague sans sceau. La bague sans sceau dans notre Mishnah, c'est marqué que c'est un tarchit, c'est interdit. Une bague avec sceau, c'est marqué que c'est interdit, Minatora. Trois explications pourquoi est-ce que ça serait interdit, Minatora. À demain, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles et guérison pour nos malades. Amen et Amen.
Organiser un cours avec un rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. ToraBox vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un rav de ToraBox donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.